Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot, Ligue 1 Uber Eats.
Thibaut Giangrande.
13h05 à Rennes, 20h05 à Tokyo. Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur RMC pour l'intégrale foot consacrée à la première journée de Ligue 1 et à ce Rennes-Lens qui vient de débuter. On va revenir également sur la conférence de presse de Lionel Messi qui a reconnu que le PSG était, je cite, une possibilité. Une intégrale foot avec un petit peu de JO quand même. C'est la fin, cérémonie de clôture. Le passage du flambeau à Paris 2024 à suivre sur RMC. Et puis de la moto, on suivra à partir de 14h le grand Grand Prix MotoGP de Styrie. Qui dit retour de la Ligue 1 le dimanche 13h sur RMC dit retour de Manu Amoros, notre membre de la Dream Team, champion d'Europe 84. Comment ça va Manu?
Bon, bonjour Thibaut, bonjour à tous. Eh bien écoute, ça va très bien. Hein. Ouais. Après quelques jours de repos, eh bien, écoute, voilà, on repart pour une nouvelle saison avec ce championnat de Ligue 1 qui, on espère, soit vraiment très performant.
Eh bien, on va y aller tout de suite. C'est reparti pour la Ligue 1. Manu, vos messages hein, sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC, le Direct Studio. Vos appels également au 32-16 si vous voulez venir parler de Lionel Messi, peut-être au PSG avec Manu Amoros. On vous attend, mais on va tout de suite reprendre la direction du Roizen Park, retrouver David Filippo et Xavier Grimaud. Rennes-Lens, c'est la première journée de Ligue 1. Le match est parti et avec du public, c'est vrai que c'est déjà une image. Bon, de
attention, la frappe justement. Pardon de te couper, mais il y avait une passe dans l'axe totalement manquée de Flavien Tay et la tentative de Simon Banza qui elle aussi était totalement manquée. Tu disais Thibaut, oui, le retour du public, c'est ça?
Ouais, ça fait du bien. Alors de voir là sur notre petit écran ce monde dans les stades, mais surtout d'entendre derrière vous ces supporters, 20 000, vous nous disiez, ça va être un des grands changements cette saison.
Ce sont pas des bandes sonores, hein, comme on pouvait entendre il y a encore quelques semaines dans les stades de Ligue 1. Oui, il y a près de 20 000 personnes cet après-midi du côté du Roizen Park. Et puis je le disais aussi tout à l'heure, une grosse colonie lensoise. Ils font beaucoup de bruit, hein, les Lensois, les supporters lensois. Il y a, je crois, plus d'une dizaine de bus qui arrivent du nord de la France.
Et ça faisait un effet très étrange, David, quand le public a commencé à gronder, notamment quand les équipes sont venues à l'échauffement. Ça bourdonnait dans les oreilles. On avait complètement perdu l'habitude avec ce huis clos où on entendait la pelouse, où on s'entendait entre confrères, où on entendait le confrère de la radio voisine sur l'autre antenne, parce que évidemment ça résonnait dans le stade. Là, c'est superbe et le Roizen Celtic Cup, le Cup Rennais qui s'en donne à cœur joie là, bras dessus et qui saute, et évidemment le Cup Lensois n'est pas en reste, donc voilà, ça c'est le foot. Il y a eu des fumigènes également à l'entrée des deux équipes, ça sentait bon le fumigène dans le stade. Ça c'est le foot Manu, hein. c'est le foot qu'on veut évidemment.
Un joueur il aime que les supporters soient derrière eux, donc on a passé des moments très compliqués, très difficiles sans supporters, et là retrouver pas la jauge pleine mais une jauge de 20 000 là à Rennes, c'est déjà pas mal. On a vu hier Lyon, il y avait pas mal, c'est de bon augure pour la suite, en espérant que ce Covid nous laisse tranquille et que les gens aillent supporter leur équipe.
Et décidément une image, c'est vrai, rare hein, de ce Roizen Park avec ce monde dans les tribunes, ce soleil aussi qui baigne le stade. Xavier et David,
bon, il y a encore quelques heures il n'était pas vraiment là, Xavier, tu confirmes toi,
on ne l'a pas vu depuis quelques semaines
aussi.
On voit par intermittence.
Alors David, Xavier, c'est la première journée de Ligue 1. On va reprendre nos habitudes. Et c'est des équipes qu'on va redécouvrir aussi. Le mercato est passé par là, passe par là. D'ailleurs, il est ouvert jusqu'à la fin du mois. Quels sont les compos de ces deux équipes?
Alors on va commencer avec la compo rennaise. On va juste suivre Martin Terrier dans la surface de réparation à la lutte avec Christopher Wu. C'est l'une des nouvelles têtes qu'on va découvrir du côté de Lens. La compo rennaise avec Gomis dans les buts, Birger Meling, c'est une des recrues, l'arrière gauche, l'ancien Nîmois, hein, le Norvégien qui était plutôt très performant. Aguerd, Loïc Badé, c'est la grosse recrue en défense, l'ancien Lensois dans la défense rennaise. Amari Traoré, arrière droit, sera le capitaine cette saison. Au milieu de terrain, Hugo Choukou, la classe biberon de Rennes. Attention, Meling dans la surface, le cas qui plonge dans les pieds de Meling. Hugo Choukou donc au milieu du terrain avec Kamavinga qui est toujours là, Flavien Tay, et devant on aura Kalmadine Soulemana, Manu Amoros. On va découvrir le jeune Ghanéen de 19 ans qui est vraiment une grosse pépite, un peu à la profil à la Jérémy Doku, Benjamin Bourigeau sur les droites et Martin Terrier en pointe. Voilà, donc pour l'instant il y a trois nouvelles têtes sur la pelouse rennaise, du côté rennais, avec Badé, Meling et Soulemana, la compo lensoise.
Et du côté lensois, 11 minutes de jeu, on rappelle, 0-0 entre Rennes et Lens. Ça sera un 3-5-2, on se demandait hein, comment Franck Hez allait articuler sa défense, parce que Grady et Medina sont suspendus et Aïdara est blessé au mollet. Finalement, ça sera Boura qui est latéral gauche, ça sera une défense à 3 dans ce 3-5-2. Boura, Wu, Xavier en a parlé, et Fortes au milieu de terrain. Donc 5, ils sont au milieu. Attention, le centre Rennais à suivre, et ça va au deuxième poteau, ça sera repris par les Rennais, mais on est loin de la cage lensoise. Ça sera donc Machado à gauche, Fofana, Doucouré dans l'axe, Klaus sur le côté droit et Kakuta. L'option a été levée hein, pour Kakuta cet été du côté de Lens. Sera derrière Ganago et Banza. Les deux nouvelles têtes sont Wu, le défenseur central, et Machado qui vient lui de Toulouse.
Et ça démarre pas mal hein, messieurs, ce début de match, il y a du rythme.
Ouais, exactement. Je trouve qu'il y a pas mal de rythme. Il y a une domination rennaise. Hein. Ils ont le ballon, les Rennais. Pour l'instant, il y a eu déjà quelques petites combinaisons côté droit. On a vu des centres venus de la droite. On a vu également Souleymana, hein, le Ghanéen de 19 ans, qui est passé dans la surface de réparation avec un centre en retrait qui n'avait rien donné. Les Rennais un petit peu mieux rentrés dans leur match, peut-être, David.
Ouais, mais j'attends de voir. Alors, il n'y a pas Doku hein, cet après-midi. Pas titulaire cet après-midi. Il est sur le banc. J'attends de voir Doku à droite et Souleymana à gauche, parce que ça va vraiment très très vite. On connaît la vitesse de Doku, on va apprendre à connaître celle de Souleymana. Le ballon là pour les Rennais et ça va aller directement dans les bras du gardien lensois Jean-Louis Leca. 12 minutes bientôt au Roazhon Park, 0-0.
Manu, un mot sur ce match entre Rennes et Lens, deux clubs qui ont fait plaisir l'année dernière, qui ont d'ailleurs quasiment fini au même niveau du championnat, 6e les Rennais,
7e,
ouais, c'est ça, Lens 7e, un point derrière, deux belles équipes de la saison passée.
Bah oui, la grosse surprise a été quand même Lens qui, à part le classement, nous a quand même concocté un système de jeu en 3-4-3 ou en 3-5-2. Donc c'était un peu une surprise. Et aussi dans la qualité du jeu, ils ont été très très bons dans la circulation de balles, ils ont marqué pas mal de buts. Kakuta a été très bon dans tout ce qui est passe, remise, et ça a été vraiment un dynamiteur de cette attaque de Lens. Après Rennes, Rennes a fait, je dirais, un peu ce qu'il a pu, parce qu'on attendait un peu plus de la part des Rennais. Mais malheureusement, je crois que potentiellement, au niveau de l'effectif, c'était pas ça. Je crois qu'il manquait quand même deux ou trois joueurs qui auraient pu apporter peut-être ce plus pour pouvoir aller un peu plus loin. Je sais pas si Xavier nous confirmera
tout
ça.
Oui, absolument, mais... Manu. Bah, ils ont eu une saison un peu chaotique avec la Ligue des Champions qui leur a puisé des forces, et évidemment le niveau était un peu trop haut.
Xavier, on le sait ça. On le sait malheureusement que quand tu joues une Coupe d'Europe, tu vas y laisser des plumes. Donc c'est pour ça qu'avoir peut-être un effectif un peu plus ample, un peu plus avec des joueurs de qualité, ça aurait pu peut-être amener Rennes peut-être un peu plus haut dans le classement.
Ouais, absolument. Alors après, pour basculer sur cette saison-ci, c'est pas forcément l'optique prise par Florian Maurice et le club rennais. Attention, on va suivre Souleymana, fait l'un des premiers débordements de Souleymana, il est très rapide, il a pris le dessus sur Fortes, il peut repiquer dans l'axe et frapper du droit. Oh, le but Calmaline Souleymana. Oh, le flip, le double flip. Oh, il fait un petit numéro au sol qui n'aurait pas rayé les gymnastes des Jeux Olympiques. Quel début pour Calmaline Souleymana. Il est parti, il a pris de vitesse, il a repiqué dans l'intérieur du droit poteau rentrant. On va le découvrir. Et déjà, il a fait lever le Roazhon Park, 1-0 pour Rennes.
Oui, on en avait parlé, j'en avais parlé tout à l'heure. Je trouvais déjà qu'il prenait de vitesse cette défense lensoise. Et ça s'est encore passé sur cette action. Il a parfaitement fixé. Et le petit ballon enroulé qui a touché le poteau. Et le cas, il ne pouvait absolument rien, le gardien lensois, sur cette frappe. Après un quart d'heure de jeu, eh bien Rennes qui commence son festival. 1-0 donc pour les Bretons.
Manu, l'appel de balle, l'accélération, le crochet, la frappe, c'est l'attaque en complet, là, toute la panoplie.
Déjà, la vitesse compte énormément. Et puis le défenseur joue mal le coup, parce qu'on sait que Souleymana est droitier. Donc il doit pas le laisser crocheter à l'intérieur. Il doit plutôt l'amener sur le côté et utiliser le pied gauche. Donc ça, c'est une erreur. Et après, il faut pas laisser prendre de la profondeur à Souleymana, parce que comme il va très vite, donc il y a une mauvaise entente entre les trois défenseurs lensois qui a permis ce magnifique but, parce que après c'est pas facile, il faut quand même la mettre plat du pied, poteau opposé. C'est une prise de risque qui a été très concluante pour Rennes.
Et au quart d'heure de jeu, le Stade Rennais mène donc 1-0 face à Lens. 13h15, l'intégrale foot sur RMC avec Manu Amoreau. Je vous l'avais promis tout à l'heure, un peu de JO cet après-midi. Transition parfaite avec ce flip arrière, ce salto, triple salto de Souleymana pour fêter son but. On va aller à Tokyo retrouver Louis Amar en direct. C'est la cérémonie de clôture. Salut Louis.
Salut Thibaut, bonjour à toutes et à tous. Je suis un petit peu jaloux du public autour duquel sont Xavier et David, parce qu'ici il n'y a toujours pas de public au Stade Olympique de Tokyo, mais enfin il y a des athlètes. Tu parlais de salto, on peut se souvenir de celui de Samir Aït Saïd, porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture. De salto il n'y a pas eu lorsque le porte-drapeau de la délégation française de cette cérémonie de clôture, Steven D'Acosta, a fait son entrée dans le stade. Ça arrive beaucoup plus tôt que lors de la cérémonie d'ouverture. Tous les porte-drapeaux des 206 délégations sont en train d'entrer. Steven D'Acosta a fait partie des premiers, le champion olympique de karaté, bien sûr, dans la catégorie des moins de 67 kilos. Tous les porte-drapeaux sont en train de se réunir en cercle au milieu de la scène montée au cœur de ce stade olympique de Tokyo. Il va y avoir une vidéo diffusée qui va se conclure par le slogan des Jeux: plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Tu te souviens, Thibaut, que le mot ensemble a été rajouté il y a quelques jours à peine pour marquer l'union des athlètes et des délégations pour surmonter notamment la pandémie de Covid-19.
Et puis sinon, ça faisait trop Fort Boyard, Olivier Mine, c'est pour ça.
Oui, exactement, exactement. Ben, c'est pour ça, hein, je pense que
c'était la deuxième raison. Ils l'ont pas dit, mais.
Non, ils n'ont pas osé. Et puis ensuite, tous les athlètes entreront. La délégation française ne sera pas très fournie. Une trentaine d'athlètes seulement, parce que vous le savez, en raison des conditions sanitaires ici, et bien dès que les athlètes ont terminé leur compétition, il leur a été demandé de regagner leur pays. On ne verra pas nos judokas, nos escrimeurs, par exemple, nos nombreux médaillés. Et puis le moment très attendu, ça sera le passage de drapeau tout à l'heure avec Paris 2024, le drapeau qui sera remis entre les mains d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui est ici dans le stade olympique. Et puis autour de 15h pour vous, un petit peu après 15h, on éteindra cette flamme olympique qui est allumée depuis 17 jours maintenant. Et ces Jeux Olympiques, ces 32e Jeux Olympiques de l'histoire, seront officiellement refermés.
Ça passe. Est-ce que ça passe vite déjà? Merci.
Ça file, hein.
Ouais, ça file. Analyse. Merci Louis. Bah, on te retrouve un peu plus tard. Tu continues de nous décrire cette cérémonie. Et puis on sera là évidemment au moment du passage de drapeau olympique à la mer de Paris. Toujours 1-0 pour Rennes face à Lens. On y retourne dans un instant sur RMC dans l'intégral foot. Mais le passage de drapeau aura lieu aussi virtuellement entre Tokyo et Paris. Anthony Rey nous attend au Trocadéro, parce que plus beaucoup de sportifs français à Tokyo. Il y en aura quelques-uns au Trocadéro avec toi, Anthony, parce que ça va être le premier grand moment finalement sur la route de Paris 2024. Salut Anto.
Ouais, salut Thibaut, salut Manu, bonjour à tous. Effectivement, et pas que quelques-uns, ils sont déjà très nombreux à être là, les athlètes olympiques français, pas loin de moi. Il y a notamment Kevin Mayer ou encore Florent Manodou. J'ai croisé Clarisse Agbeninou. On aura certainement Samir Aït Saïd aussi, qui a été une de nos émotions pendant cette quinzaine olympique dans quelques minutes. Oui, effectivement, c'est le premier passage important vers la route des Jeux.
L'égalisation lensoise ici au Roazhon Park. Et elle est signée de Ganago, hein, il me semble. Alors, il y a eu une paire de balles. Je ne sais pas si tu as vu l'action, Xavier.
Perte de balle de la défense rennaise, effectivement. Et le petit centre en retrait, c'est pas Ganago, c'est Fofana qui récupère le ballon. Gomis qui ne peut rien faire. Grosse perte, grosse erreur défensive, erreur individuelle qui permet au Lensois de revenir dans ce match. Un partout entre Rennes et Lens, et on joue depuis 17 minutes.
On revient dans un instant au Roazhon Park sur RMC avec David Philippot, Xavier Grimaud et Manu Amoros. Mais on va terminer avec Anthony Reich au Trocadéro. Anthony.
Oui, je le disais, c'est comme tu le disais, hein, Thibaut, c'est cette passation virtuelle de témoin qui va avoir lieu entre Tokyo et Paris, avec la magie évidemment des moyens techniques aujourd'hui. Il y a déjà plus de 6000 personnes sur cette esplanade du Trocadéro qui est comble, pleine à craquer. Beaucoup de Français et même d'étrangers sont venus, passionnés de sport, pour assister à cette cérémonie. C'est une première dans l'histoire des Jeux qu'une cérémonie de clôture se déroule évidemment dans la ville haute actuelle où est Louis à Tokyo, et dans la nouvelle ville qui accueillera donc les Jeux en 2024 aux alentours de 14h30. Tony Estanguet me disait hier que ça serait spectaculaire, incroyable, inédit, 10 minutes 30 de cérémonie à Paris, mais pas que, avec une surprise. On attend évidemment un invité surprise qui pourrait être ailleurs que Paris. Donc ça sera aux alentours de 14h30 avec un spectacle incroyable, un défilé des athlètes olympiques qui sont déjà rentrés. Et puis malheureusement, le petit hic, c'est qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui sur la capitale, et que ce fameux drapeau tricolore géant qui devait être dressé sur la tour Eiffel, de la taille d'un terrain de football, ne pourra pas l'être à cause de la force du vent. Et du coup, les répétitions qu'il y avait eu au mois de juin permettront à la télé, si vous regardez la télé, on vous autorise quelques secondes à regarder à la télé pendant ce moment-là, puisqu'on aura les images de la répétition. Mais ici, sur la tour Eiffel, finalement, il n'y aura pas le drapeau géant.
Dommage, j'avoue que j'attendais ça. Merci Anthony, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette cérémonie virtuelle entre Tokyo et Paris que vous allez vivre en direct sur RMC. 13h20, l'intégral foot avec la première journée de Ligue 1. Rennes qui reçoit Lens. Un point sur le temps et le score, Xavier Grimaud et David Filippo.
20 minutes de jeu, un partout donc entre Rennes et Lens. Il est bien parti hein, ce match. Grosse erreur individuelle de Naïef Aguerd, le défenseur rennais, qui repique dans l'axe Manu, pile dans la course de Banza, qui finalement n'a pas grand chose à faire pour récupérer le ballon, et le centre ensuite, c'est un caviar pour Fofana.
Ouais, Manu, un partout. Manu, effectivement, le but il est pour Aguerd, hein, clairement. Hein. Ah, on a perdu Manu.
On le dit alors, il est pour Aguerd.
On a retrouvé Manu. Ouais, Manu, c'est terrible cette erreur défensive là quand même. Hein.
Ah ouais, complètement. On ne doit pas prendre ce risque dans la surface de réparation. Je crois qu'il avait la possibilité, parce que il fait un bon petit contrôle. Après, on voit qu'il fait pied droit, pied gauche, donc il s'emmène un peu les crayons. Mais il aurait dû d'abord la passer au gardien Gomis pour repartir de l'autre côté. Voilà, le football et les buts sont faits d'erreurs. Il en a fait une grosse, mais on sentait pas quand même les Rennais, après ce but-là, aller presser comme ils ont fait en début de match. On les a sentis reculer et laisser un petit peu le jeu et l'organisation du jeu à Lens. Non, Jean-Vic, qu'est-ce que t'en penses?
Oui, absolument. Ils n'ont pas continué de mettre une pression alors qu'ils étaient plutôt dominateurs depuis le début du match. Et voilà, Lens, c'est une bonne équipe. Bon, après, Aguerd, voilà, il a fait une préparation un peu, pas décevante, mais voilà, il a eu quelques absences également. Là, il fait une grosse erreur. Bon, il va falloir se remobiliser pour les Rennais, parce que Lens, évidemment, sur leur lancée de la saison dernière, l'effectif n'a pas tant bougé que ça, si ce n'est derrière où il y a vraiment beaucoup de recrues. Ça va être costaud. Donc, en tout cas, ça lance très, très bien ce match. 22 minutes de jeu, un partout entre Rennes et Lens. On a un but magnifique de Souleymana, un but un peu moins magnifique de Lens, mais un but qui compte pareil. Un partout, 22 minutes.
Et on revient au Roizen Park dans un instant sur RMC, dans l'intégral foot, toujours avec Manu Amoros. On suit toujours cette cérémonie de clôture à Tokyo, le stade olympique, où le relais sera donné virtuellement à Paris. On est à Tokyo et on est au Trocadéro également. Et puis je vous rappelle que cette première journée de Ligue 1va se continuer toute la journée, au lendemain du match nul entre Lyon et Brest, un partout, et de la victoire du PSG à 3, 2-1. Vous avez rendez-vous avec le premier multiplex de l'année à partir de 15h. Saint-Étienne, Lorient, Nice, Reims, Strasbourg, Angers et Bordeaux-Clermont. À 17h, on suivra ensemble Metz, Lille, et l'affiche opposera ce soir à 20h45 Montpellier à Marseille. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot, Ligue 1 Uber Eats.
Thibaut Giangrande.
Il est 13h24, excellent après-midi à l'écoute d'RMC. Beaucoup de choses au programme aujourd'hui. Manu Amoros est là, hein. C'est le retour de votre Dream Team, votre rendez-vous du dimanche 13h pour cette première journée de Ligue 1 entre Rennes et Lens. Louis Amar est à Tokyo, notre dernière journée en direct du Japon pour la cérémonie de clôture. Anthony Reich au Trocadéro, parce qu'on va vivre ensemble sur RMC, après avoir vibré pendant ces JO, la passation de flambeau entre Paris et Tokyo. Passation virtuelle évidemment. Je vous rappelle qu'à 14h, on suivra le Grand Prix MotoGP de Styrie avec nos Français Quartararo et Zarco. Allez, retour tout de suite au Roizen Park avec David Filippo et Xavier Grimaud. Rennes Lens, la première journée de Ligue 1.
26 minutes de jeu ici au Roizen Park. Un but partout entre Rennes et Lens. C'est Souleymana qui a ouvert le score à la 14e, l'égalisation du milieu de terrain Fofana à la 19e, sur une énorme boulette du défenseur central du stade rennais Aguerd. Donc un partout entre ces deux équipes.
Et ça s'est bien équilibré effectivement avec cette égalisation lensoise. Le ballon qui est toujours rennais, il y a un tout petit peu moins de rythme. Les Lensois aussi qui ferment un peu plus les espaces, donc les Rennais qui peuvent se projeter un petit peu moins facilement. Le ballon dans les pieds d'Aguerd qui va jouer avec Alfred Gomis. Alfred Gomis qui a été confirmé en position de numéro 1. Le Stade Rennais ne cherche pas officiellement de gardien, alors que Gomis, c'est vrai, n'a pas fait une première saison convaincante du côté des Rennais. La relance courte avec Traoré, Plenax, avec Kamavinga dans la course.
Dans la course de Kamavinga, on cherche encore la vitesse de Souleymana. Souleymana sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va fixer? Ouais, super, ce qu'il fait, le bon contrôle. Il est à l'angle de la surface de réparation. Souleymana, le Ghanéen qui met derrière pour Flavienté. Entrée pour Traoré. Maintenant, c'est un petit peu éloigné la surface de réparation. Le ballon toujours pour les Rennais avec Flavienté dans la surface. Flavienté toujours. Est-ce qu'il va pouvoir frapper? Ouais, c'est bien défendu de la part des Lensois et ça sera donc une sortie de but.
Il aurait peut-être pu déclencher avant, hein, Flavien Thé. On a le sentiment, alors on n'avait pas évidemment la même vision que lui, il y avait peut-être des joueurs Lensois face à lui, mais voilà, il y avait une passe un peu à l'arrache de Traoré pour Flavien Thé. Il aurait peut-être pu tenter du gauche sur son bon pied. Ce sera une sortie de but finalement pour Jean-Louis Leca. 27 minutes de jeu, Thibaut, Manu, un partout entre Rennes et Lens.
Manu, ton avis sur l'animation offensive des Rennais qui ont vu ce but superbe de Souleymana, ça va vite, il y a beaucoup de vitesse devant pour le Stade Rennais, hein. Et encore, ouais, il y a Doku qui est sur le banc. Mais...
Ouais, c'est ça. Les Lensois ne font pas attention parce qu'ils perdent le ballon au milieu de terrain et les Rennais profitent des contre-attaques avec Souleymana qui va très, 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 très vite. Là aussi, il faudrait peut-être que le Lensois, le stoppeur gauche, Bourra, qui vienne, le stoppeur droit Forté, qui vienne vraiment le coller. Pour pas qu'ils prennent de la vitesse, parce que sinon ils vont se faire reprendre comme sur le premier but et ça va être très dangereux. Mais c'est vrai que depuis, comme Xavier disait, ça s'est équilibré au milieu de terrain. On voit bien le schéma tactique des Lensois en 3-4-3 sur un pressing constant, parce qu'on voit toujours les joueurs qui montent sur le porteur du ballon et qui laissent peut-être peu d'espace au milieu de terrain, mais très dangereux quand ils perdent le ballon au milieu de terrain.
Et Souleymana encore, 28e minute, hein, partout entre Rennes et Lens. Et Souleymana, une nouvelle fois, tu l'as dit Manu, ouais. Il a pu prendre la vitesse, il a fixé et il va très très vite, hein. C'est vrai et il a pu centrer dans la surface de réparation. Il a une facilité à éliminer ses vis-à-vis, c'est assez impressionnant. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand il y aura Doku de l'autre côté, ça sera pas simple pour les équipes adverses.
C'est justement... avec une superbe ouverture de Loïc Badé, hein, d'ailleurs sur.
Ouais, et surtout quand les équipes adverses vont jouer avec trois défenseurs, parce que là, il va falloir que les milieux de terrain, soit c'est des défenseurs, des latéraux, et il va falloir qu'ils prennent un marquage individuel, parce que là ça va aller, comme tu disais, très très vite, hein.
C'est un choix d'avoir laissé Jérémy Doku sur le banc. Est-ce qu'il a repris un peu plus tard peut-être que...
Oui, exactement, ouais. Il est revenu que début août, après l'Euro, le quart de finale avec la Belgique, perdu face aux champions d'Europe, hein, les Italiens. Il s'est légèrement blessé à une cuisse, il est revenu fin juillet, pardon, il s'est légèrement blessé à une cuisse juste avant le dernier match amical face au Torino, donc il est apte à jouer, mais il est encore un petit peu juste, donc il va certainement entrer en jeu, peut-être à la place d'ailleurs de Souleymana, voilà, mais ce sera évidemment une force en plus, hein, Jérémy Doku. Maintenant on le connaît, Souleymana, on va peut-être apprendre très vite à le connaître. Peut-être juste rapidement sa fiche, Thibaut, parce qu'on le connaît pas très bien. Kamaldine Souleymana, déjà c'est un nom qui claque, je trouve, quand on le dit vite comme ça, ça
oui, mais, du pef. Ça claque, mais il faut bien le dire, tu vois. Par exemple, t'as bégayé sur le prénom, tu vois, il faut bien le dire.
Il a 19 ans, formé dans son pays, au Ghana, dans l'académie Right to Dream, et ensuite il est parti à Nordjylland, au Danemark, où il a joué une seule saison avec l'équipe première, mais déjà il avait
10 buts et 8 passes décisives.
10 buts, 8 passes décisives, et énormément de décalage et de différences faites. Voilà, il lui manque un peu encore le dernier geste, c'est ce que disait Florian Maurice, ce sera son axe de progression. Mais voilà, Rennes est très content de l'avoir eu. Ils ont mis petit peu l'enveloppe, hein. On parle de 15 millions, peut-être 20 millions avec les bonus.
20 millions.
Avec des clubs qui étaient dessus, des gros clubs européens, mais un petit peu comme Jérémy Doku, Souleymana a fait le choix de passer par un club intermédiaire, à savoir le Stade Rennais, avant éventuellement d'aller voir plus haut, tant mieux pour les Bretons. La demi-heure de jeu au Horizon Park, un partout entre Rennes et Lens.
On a sorti chez qui, hein, c'était côté Rennais, hein, parce que on a sorti 15 millions, tu le disais, environ pour Souleymana. Il y a eu les 20 millions pour Loïc Badé, justement provenance de Lens. On retrouve un Stade Rennais ambitieux pour cette saison 2021-2022.
Il y a eu Mélique aussi, hein, qui vient de Nîmes pour 3 millions, hein, évidemment, c'est un peu moins important, mais effectivement beaucoup d'argent investi par le propriétaire du club, par François Pinot, pour cette nouvelle saison. Et c'est vrai qu'on a hâte de voir cette équipe de Rennes cette saison. Je regardais la taille de Souleymana, 1m75, et Doku 1m71. En plus, ce sont des ailiers de poche. Les défenses adverses vont passer des sales moments lorsque ces deux joueurs seront alignés, c'est quasiment certain. Ouais. Loïc Badé, d'ailleurs, pour l'anecdote, donc il était à Lens, hein, la saison dernière, et il a été un petit peu sifflé par les supporters lensois. J'ai entendu quelques sifflets lorsqu'il y a eu le nom de Badé, puisqu'il est arrivé il y a seulement un an à Lens, hein. Il venait du Havre, il a fait fait un an donc de Ligue 1 avec Lens et il est arrivé donc cet été du côté de Rennes pour 20 millions plus 3 avec bonus.
Mais sur les ambitions, Rennes, juste Thibaut.
Les clubs, ils ont besoin d'argent, donc parce que je sais pas, le Havre, Lens, il avait acheté combien au Havre? Pas beaucoup, non?
Alors, j'ai vu 700 000, alors j'ai vu libre sur
700 000, t'imagines?
20 millions
d'euros, ils l'ont vendu pour Rennes. T'imagines l'écart?
Ouais, ça a pris un petit peu de temps pour que ça se fasse parce que Lens réclamait un petit peu plus. Rennes s'est aligné parce qu'il cherchait ce défenseur central, futur cadre, et Loïc Badé a toutes les caractéristiques sur le haut. Juste sur les ambitions rennaises, elles sont élevées parce que Bruno Genesio et Florian Maurice ne se cachent pas. C'est se qualifier à nouveau pour une Coupe d'Europe, et si possible faire mieux, se qualifier au moins pour la Ligue Europa. Donc voilà, au moins c'est dit. Maintenant il va falloir aussi que ce soit le cas dans les gestes. Et François Pinault, c'est évidemment comme toujours une vraie chance, plus qu'une chance même, d'avoir un actionnaire comme ça, parce que Rennes est l'un des rares clubs qui peut investir de l'argent sur le marché des transferts, et François Pinault a en plus mis à la poche pour combler le déficit qu'ont eu tous les clubs avec le Covid et la billetterie. Mais bon, voilà, il y aura des ventes peut-être Camavinga qui permettront de faire la bascule.
Il peut dans quelques semaines, je pense, non?
Il peut
le président mettre la main dans la poche, non?
Bien sûr, il peut.
La question, c'est ce qu'il veut.
Par rapport à d'autres présidents qui, malheureusement, année, sont dans le dur.
On va prendre le score, s'il vous plaît, au Roizen Park.
33 minutes de jeu au Roizen Park. Un but partout entre Rennes et Lens.
Et à 13h32 dans l'intégral foot sur RMC, nous allons prendre la direction du Japon où il est 20h32 pour Louis Amar qui est en direct du stade olympique de Tokyo. Pas d'athlétisme ce soir, mais une cérémonie de clôture.
Pas d'athlétisme, mais des athlètes, Thibaut. Beaucoup d'athlètes, les 206 délégations, ou ce qu'il en reste, puisque je vous rappelle qu'elles ne sont pas au complet, sont en train de pénétrer dans le stade olympique. C'est beaucoup moins organisé que lors de la cérémonie d'ouverture, et c'est volontaire. Il n'y a pas d'ordre dans lequel entrent les délégations. Elles arrivent des quatre coins du stade, et tous les athlètes sont ensuite mêlés au centre de la pelouse du stade, qui a été recouverte en partie d'une espèce de grande scène. Les anneaux olympiques vont venir éclairer cette grande scène. Pour l'instant, le stade est toujours plongé en partie dans l'obscurité. Il n'y a que quelques spots qui l'éclairent, parfois de bleu, parfois d'orange, parfois de jaune. Et puis il y a bien sûr toujours cette superbe flamme olympique qui continue de brûler, de briller à l'extrémité droite du stade. Ça donne un spectacle assez magnifique, plein de couleurs. Les porte-drapeaux ont, eux, délaissé justement leurs drapeaux. Des bénévoles les ont rapportés dans les entrailles du stade, mais ils sont toujours au cœur de la pelouse. On a vu tout à l'heure Steven Dacosta, le porte-drapeau de la délégation française, champion olympique de karaté, heureux, d'autant plus heureux qu'il ne pourra sûrement pas revivre ce moment, pas de sitôt dans tous les cas, puisque le karaté a fait une apparition express au programme olympique, arrivé en 2020 et sitôt ressorti, puisqu'il n'y aura pas de karaté en 2024 aux Jeux Olympiques de Paris. Il y a quand même quelques stars de ces Jeux qui sont là et qui sont encore sur la pelouse. On peut citer Damian Warner, le Canadien, vainqueur du décathlon devant Kevin Mayer, quatrième athlète de l'histoire à passer au-dessus de la barre des 9000 points. Et puis la star la plus inattendue peut-être de ces 32e Jeux Olympiques, Thibaut, l'Italien Lamont Marcel Jacobs, le successeur d'Usain Bolt au palmarès du 100 mètres, qui a couru plus vite que le Jamaïcain en 2016, 9,80, c'est le temps qu'il a signé. Et puis médaille d'or également sur le relais 4x100. Voilà, la parade des athlètes continue de se dérouler dans une joyeuse ambiance, beaucoup de selfies, beaucoup de GoPro exhibés par les athlètes qui pénètrent dans le stade, et puis des messages de fans également qui sont projetés sur les écrans géants, des messages enregistrés de tous ceux qui auraient voulu se rendre au Japon mais qui n'ont pas pu le faire, Covid oblige.
Ouais, je suis extrêmement jaloux de l'été des Italiens. Ils se font en été entre l'Eurofoot, leur champion olympique du 100 mètres, le relais 4x100. C'est 2021.
Tu as oublié l'Eurovision, Thibaut.
Et j'ai oublié l'Eurovision, effectivement. C'est un été fabuleux. À tout à l'heure, Louis, pour la suite de cette cérémonie de clôture de Paris, de Tokyo à Paris. Il y a un peu plus qu'un pas, il y a 3 ans d'écart surtout. Et il y a Anthony Reich qui est au Trocadéro pour le passage de flambeau qui aura lieu tout à l'heure. Passage virtuel. Qu'est-ce qui se passe en ce moment autour de toi, Anthony?
Il pleut très fort, Thibaut. On vient d'essuyer une énorme averse au Trocadéro. Il va falloir être équipé. J'ai vu tout de suite les 6000 personnes présentes dans le public sortir tous les parapluies. Ils vont mériter leur 10 minutes 30 de cérémonie ici à Paris, en face de la Tour Eiffel. Et dans cette cérémonie, il y aura aussi le passage, un double passage de la patrouille de France qui survolera par deux fois la capitale et évidemment la zone de la Tour Eiffel. Eiffel, de quoi avoir aussi un beau spectacle pour les 6000 spectateurs présents. Et on voit les champions arriver petit à petit, ces athlètes olympiques qui nous ont fait rêver pendant cette quinzaine à Tokyo, ici au Trocadéro.
Merci Anthony, à tout à l'heure. C'est quand même, j'imagine, pas ce qui avait été prévu. Voilà, 8 août 2021, il pleut à Paris. Bon, c'est un beau résumé de l'été qu'on est en train de vivre ici. 13h35, quel temps au Roazhon Park. Je voyais tout à l'heure dans mon écran, là, dans ce studio.
Bretagne, il pleut à Paris.
Eh oui, mais je voyais du soleil, Manu, sur le Roazhon Park. Ouais, là, il y a plus du tout de. C'est tout à l'ombre, là, David et Xavier.
Ouais. Cet été, ça, on en a rarement plus d'une demi-heure. Après, ça se couvre. Hein. Donc, faut sortir vite dès qu'on le voit. Ça se couvre, mais ça se couvre aussi un peu sur le terrain parce que c'est un peu moins agréable à suivre. C'est moins enjoué, un peu plus fermé. 37 minutes de jeu, un partout entre Rennes et Lens. On va rappeler Souleymana, Kalmaldine Souleymana, le Ghanéen, pour son premier match avec Rennes. Superbe premier but, frappe enroulé, poteau rentrant et l'égalisation suite à une grosse erreur de Naïef Aguerd, de Sekou Fofana pour les Lensois. Les Rennais qui sont dans leur moitié, tous les Lensois qui sont dans leur moitié de terrain pour défendre le ballon dans les pieds de Loïc Badé.
Il y a Fortes qui passe une après-midi un petit peu compliqué avec Souleymana, là encore une fois il lui a fait la misère sur un petit coup de rein. Il est vraiment très intéressant, hein, cet ailier gauche Souleymana, buteur, premier buteur du Stade Rennais cette saison. Les Aguerd qui donne à Badé, on est dans la moitié de terrain rennaise, mais comme le disait Xavier, ils sont tous dans leur moitié de terrain, les Lensois.
Manu, la question à l'ancien défenseur que tu étais, arrière gauche ou droit, là, si tu t'étais retrouvé face à Souleymana en face de toi, comment faire pour limiter son impact, sa vitesse?
Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, essayer de le prendre très haut, c'est un marquage presque individuel quand il a le ballon. Ne pas le laisser prendre de la vitesse et l'empêcher de recevoir le ballon. Donc dès que on s'aperçoit que il va recevoir le ballon, boum, de suite monter. Mais là, il y a une très mauvaise entente entre Klose et Fortes, parce que Souleymana qui va très 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 vite, il faudrait que Klose recule d'un cran quand Rennes a le ballon et que puisse le prendre à tous les deux. Parce que là, sinon, c'est sûr que Fortes va passer vraiment une mauvaise après-midi.
Mais est-ce que Franck Hez ne devrait pas changer de système, Manu? Passer à 4 après, derrière.
Oui, bien sûr que Hez va peut-être changer de système en remettant Klose vraiment latéral.
Ouais. Le temps, le score.
C'est le mieux.
Au Roazhon Park, David et Xavier, le temps chronométrique, j'entends.
39 minutes de jeu, un partout entre le Stade Rennais et Lens.
Et dans un instant, la fin de cette première période sur RMC dans l'intégrale foot avec Manu Amoros. Vos messages sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC, le direct studio, et puis on continuera de jongler entre Tokyo et Paris, Paris et Tokyo et Rennes. C'est là que ça se passe aujourd'hui sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Foot Ligue 1 Uber Eats,
Thibaut Giangrande
avec Manu Amoros qui fait son retour en même temps que la Ligue 1. C'est la première journée que vous vivez sur RMC à 15h. 4 matchs à vivre, le premier multiplex de l'année: Saint-Etienne, Lorient, Nice, Reims, Strasbourg, Angers et Bordeaux, Clermont. Vous suivrez également sur RMC Metz, Lille à 17h et Montpellier, Marseille à 20h45. Mais on suit les dernières minutes de cette première période entre Rennes et Lens avec David Filippo et Xavier Grimaud.
Et 4 minutes 30 encore à jouer dans cette première période. Un partout entre Rennes et Lens. La 14e, le but de Souleymana qui ouvre le score pour Rennes en solitaire. L'égalisation de Fofana à la 19e pour Lens suite à une grosse erreur défensive. Perte de balle de Aguerd dans la surface de réparation rennaise. Le rythme pour l'instant qui tombe un peu jusqu'à la fin de cette première mi-temps. On a encore vu Souleymana bien lancé côté gauche, David. Et encore une fois, il y avait des espaces assez énormes.
Il y avait des espaces, mais j'ai pensé à Manu parce que effectivement, Klose est venu fermé quand même, hein, Klose. Ah ouais. Et il y avait également Fortes qui était pas loin. Klose est bienvenu fermé du côté gauche de l'attaque rennaise. Et un nouveau corner à suivre pour les Lensois. Il est obtenu par je sais plus qui a obtenu ce corner.
Pas par les Lensois. On va le suivre. Et juste après, je vous attends au 32-16. On va revenir sur la conférence de presse de Lionel Messi, l'Argentin qui quitte le Barça, qui l'a donné ce matin en attendant d'éventuellement rejoindre le Paris Saint-Germain. L'avis de Manu Amoros juste après ce corner lensois.
De corner sur la droite en regardant les buts d'Alfred Gomis tiré par Jonathan Klose. Ah, la petite combinaison premier poteau, mais il n'avait pas compris. Kakuta et s'est dégagé par Benjamin Bourigeaud. Le ballon qui est maintenant dans les pieds de Jean-Louis Leca et tous les Rennais qui vont remonter à grandes enjambées pour empêcher les Lensois de relancer assez vite. Mais voilà, Leca, il prend son temps. On va certainement attendre ou pas prendre de risque jusqu'à la fin de cette première mi-temps avec Christopher Wu qui a le ballon dans les pieds. On va passer côté gauche vers Fofana. Il a un petit peu de chance, Fofana.
Le capitaine Fofana qui met en retrait pour Boura avec voilà, on fait tourner hein, tranquillement okay. du côté de Lens. On attend très clairement la mi-temps, un partout. Ouais. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire.
On va revenir au Roizen Park dans un instant et s'il se passe quoi que ce soit. De toute façon, Dave, Xavier, vous nous appelez, mais on va revenir sur l'annonce du jour, sur le moment émotion de cette journée. Il était midi quand Lionel Messi est arrivé en pleurs en conférence de presse. Il a mis quelques minutes avant d'annoncer qu'il s'agissait du moment le plus difficile de sa carrière. Je vais vous lire les 2-3 principales déclarations de Messi aujourd'hui face à la presse. On savait qu'il y avait un problème avec mon contrat, donc il s'attendait à partir. L'année dernière, je voulais partir, mais cette année, je voulais rester, a dit Lionel Messi. Et puis sur le Paris Saint-Germain, Manu Amoros, Messi a dit, je cite, c'est une possibilité, mais aujourd'hui, il n'y a rien de réglé avec personne, rien n'est finalisé. Plusieurs clubs sont intéressés, rien n'est fermé, rien n'est bloqué et tout est ouvert. Selon nos informations, pour compléter ce qu'a dit Lionel Messi, ça sent quand même très, très bon du côté du Paris Saint-Germain. Manu, j'aimerais t'entendre sur... Alors, il y a ce départ, cet aspect, en résumé, mais il coûtait trop cher pour que le Barça puisse le garder. Son arrivée très probable au Paris Saint-Germain. Est-ce que Messi au PSG, c'est une très bonne idée ou pas?
Alors, c'est vrai que Barcelone a pas mal de problèmes financiers, mais ils n'ont pas su non plus faire partir des joueurs à gros salaire pour pouvoir faire rester Lionel Messi. Après, bien sûr que le Paris Saint-Germain a la capacité financière de pouvoir se payer Messi. Et ça serait vraiment, pour notre championnat, un truc extraordinaire. T'imagines retrouver Neymar et Lionel Messi dans la même équipe, alors qu'ils ont joué ensemble au Barça. Pour les spectateurs, pour les joueurs adverses, et voir Lionel Messi. Moi, tu sais, j'ai joué contre Diego Maradona. On n'a pas eu la chance. On a failli l'avoir à l'époque à Marseille quand je jouais. Ouais. Et franchement, ça nous tardait de le voir arriver et de jouer avec lui. Alors quand on a le meilleur joueur au monde actuel être en France et pouvoir jouer avec lui ou contre lui, ah, tu parles, quel bonheur de pouvoir.
Et pour le PSG, voilà. Manu, Messi 34 ans d'un point de vue sportif, ouais, c'est ça.
Mais c'est pas grave, 34 ans, tu sais les qualités qu'il a aujourd'hui. Il a quand même encore fini meilleur buteur de la Liga. Donc ça veut dire qu'il marque encore des buts. Après, c'est vrai qu'il n'a pas le rendement quand il était un peu plus jeune. Quand je dis rendement, c'est l'aspect défensif. Mais ça fait rien, tu fais une équipe et tu composes à travers lui. Quand tu as toujours le ballon, comme là, le Paris Saint-Germain, il faut faire juste attention à des pertes de balles et avoir des couvertures en permanence les uns les autres. Mais après, ça, c'est un travail à l'entraîneur Pochettino pour de travailler là-dessus et de faire en sorte que Messi soit aussi bon qu'il a été au Barça.
Manu, c'est la mi-temps au Roizen Park. David et Xavier.
Ouais, la mi-temps, un partout entre Rennes et Lens. Rennes a ouvert le score, superbe but de Souleymana à la 14e, l'égalisation de Fofana suite à une grosse erreur de la défense. Rennes à la 19e, un partout.
Merci Xavier Grimaud, David Felippo. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour le coup d'envoi de cette deuxième période de Rennes Lens, la première journée de Ligue 1. On va conclure sur Lionel Messi avec toi Manu. Vos messages sur le hashtag RMC Live et le Direct Studio, message de foot qui nous dit: chaque année le PSG achète les meilleurs, sauf qu'il n'arrive toujours pas à gagner la Ligue des Champions. Et donc si Messi vient au PSG et que ça ne gagne toujours pas la Ligue des Champions, ça se terminera très mal, le Qatar ira ailleurs et malheureusement le PSG risque de tomber de haut et de souffrir. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas savoir de ce que ferait le Qatar après, mais Manu, si Messi arrive, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne comprendrait plus que le Paris Saint-Germain n'y arrive pas à remporter cette Ligue des Champions quand même. Hein. Manu, m'entends-tu? Manu, es-tu
allô,
là?
Allô, allô.
Voyons, on t'entend, Manu.
Tu m'entends?
Ouais, je t'entends.
Ouais, je te disais que le Paris Saint-Germain a fait quand même un recrutement très intelligent. Ils ont dépensé un peu d'argent, je dirais, pas comme les autres années où ils ont dépensé à tout va, sans éventuellement prendre des joueurs, à mon avis, hein, excellents. Mais là, je crois qu'ils ont fait vraiment trois joueurs de qualité, des joueurs qui vont
Wijnaldum notamment.
Ouais, apporter énormément au Paris Saint-Germain. Et imagine-toi avec Messi en plus, c'est une arme fondamentale pour pouvoir aller chercher la Ligue des Champions.
Hakimi, 60 millions à droite, et Donnarumma qui est arrivé libre au poste de gardien.
Donc t'imagines l'équipe qu'ils vont avoir. Après, il va falloir aussi faire repartir certains joueurs parce que c'est un groupe énorme. Et là, la difficulté pour Pochettino, c'est de que ceux qui ne jouent pas restent vraiment dans l'ambiance de ceux qui jouent. Parce que la merde dans un club, c'est toujours malheureusement ce qui n'échoue pas. Donc voilà, il va falloir, c'est un travail à l'entraîneur. Mmh. Il est payé pour ça, c'est à lui à faire tout ce qu'il faut pour que la mayonnaise prenne entre tous.
Ah, si Messi vient au PSG, Manu, tu sais, ça me rappelle quand j'étais petit et que je jouais à la console, tu sais, t'additionnes toutes les stars et tu les mets tous à côté. Il y avait mais que après, ça sur PlayStation, mais là, ça va être en vrai.
Il faut savoir les faire jouer ensemble. Ouais. Et je pense que l'entraîneur qui est actuellement au Paris Saint-Germain peut les faire jouer ensemble. Donc à partir de là, voilà. Et les joueurs qu'il y a, c'est quand même des joueurs intelligents. Je crois que c'est plus facile pour faire jouer tout ça, tout le monde.
Le PSG qui s'est imposé hier en attendant Messi à 3-2-1 après avoir été mené 1-0 avec l'égalisation d'Hakimi, justement, on en parlait, l'une des recrues. Ouais. Et le deuxième but de Icardi. 13h47, Manu, on suit évidemment cette première journée de Ligue 1 avec toi. Et puis on est aussi encore pour la dernière fois, on en profite un petit peu à Tokyo pour cette cérémonie de clôture et la passation de pouvoir, la passation de flambeau vers Paris 2024 avec Louis Amar. Louis, j'ai un œil sur l'écran là avec ici la cérémonie. Toi, tu es au stade olympique de Tokyo. C'est magnifique ce qui vient de se passer là. Les anneaux qui ont été recréés, j'avais l'impression de voir la Reine des Neiges là. Tu sais, ça a été magnifique. C'était beau, raconte-nous.
C'était même encore un petit peu mieux que la Reine des Neiges, Thibaut, pour ne rien te cacher.
Il n'y avait pas la chanson déjà.
Il n'y avait pas la chanson, donc c'était pas désagréable. Et puis en plus, c'est vrai que le spectacle était assez incroyable. Tous les athlètes sont donc entrés dans le stade olympique. Il y a eu une grosse vingtaine de minutes de défilé des délégations. Chacun d'ailleurs en dansant. C'était très sympa, beaucoup moins formel que lors de la cérémonie d'ouverture où il s'agit de faire un tour de stade très sérieux. Et puis ensuite, effectivement, des feux d'artifice sont jaillis du toit de ce stade pour projeter en l'air et sur la scène les anneaux olympiques qui représentent les 5 continents. Le stade avait été plongé dans l'obscurité totale. Nous, on avait été invités, les journalistes, à ne pas prendre de photos, à ne pas utiliser notre flash pour que vraiment l'aspect sombre de ce moment soit sacralisé. Et puis juste derrière, après que les anneaux olympiques ont été projetés, que tous les athlètes ont retrouvé la lumière, des performeurs qui sont entrés, des performeurs japonais, des chorégraphes, des breakdancers, certains qui jouent avec des cordes à sauter. Il y a également des footballeurs qui font quelques jongles et qui se font des passes, des espèces de transversales, tout ça dans une espèce de super ambiance. Il y a un orchestre qui est entré aussi, qui joue sur la scène. Et toutes les délégations continuent de danser entre elles et puis de se mélanger également entre nations, toujours en agitant leur drapeau. L'ambiance est franchement géniale, franchement festive ici au stade olympique. Et on en oublie presque, comme lors de la cérémonie d'ouverture, l'absence de public.
Merci Louis. Tiens, la passation toujours là de drapeau. Anne Hidalgo qui est sur place le récupère dans combien de temps à peu près ce fameux drapeau olympique?
Ça sera dans une cinquantaine de minutes environ.
Et ce sera à vivre en direct sur RMC. Merci Louis, et on sera au Trocadéro où la suite virtuellement de cette cérémonie aura lieu à Paris, donc où les Jeux auront lieu dans 3 ans. Manu, t'as suivi un peu les JO là depuis tes vacances?
J'ai suivi un peu les JO. Moi j'avais un rêve parce qu'en 84, tu sais que
l'équipe de France a
été championne olympique, et je pensais y aller. Pourquoi? Parce que championnat d'Europe en 84, bon, j'ai été expulsé au premier match et je me suis pas mal reposé. Et je pensais qu'Henri Michel allait me sélectionner pour faire les Jeux Olympiques, et ça aurait été vraiment un rêve, parce que participer, quand tu vois cette fête qu'il y a avec ces émotions qu'il y a quand tu gagnes, quand tu perds, ces athlètes qui battent des records, ces athlètes qui se battent tout au long pour pouvoir gagner une médaille d'or, c'est extraordinaire, quoi.
Pourquoi il t'a pas pris à l'époque?
Parce qu'il y avait des joueurs qui étaient très bons aussi.
Il voulait finir ses matchs à 11 contre 11 aussi, peut-être. Il s'est dit.
Comment?
Il voulait finir le match à 11.
Peut-être.
Et Manu, tiens, un mot, t'as vu, donc l'équipe de France, championne d'Europe 84 avec toi, championne olympique 84, sans toi, avec l'exorable Guilacombe, etc.
Il y avait Cubaine, je sais pas si t'en rappelles de ce joueur-là.
J'ai vu les cassettes. On m'a montré les cassettes. La dernière participation en 96 à Atlanta. Bon, t'as suivi notre équipe cette année, catastrophique.
Ça a été un peu pas terrible, mais bon, il faut en vouloir aussi aux clubs qui n'ont pas laissé partir les joueurs que Ripoll avait sélectionnés au départ.
Beaucoup de fautifs maintenant.
Beaucoup de frustration, parce que les Jeux Olympiques, on peut le faire qu'une seule fois dans sa vie, et éventuellement mettre toutes ses chances de son côté pour pouvoir gagner cette médaille en or. et c'est vrai que je pense que les clubs n'ont pas joué trop le jeu, la fédération n'a pas forcé non plus pour pouvoir prendre ces joueurs-là. Ripoll, il a été obligé de malheureusement de composer avec les uns les autres. Bon, ça n'a pas été exceptionnel, mais bon. Voilà, je crois que les joueurs, à part le résultat, je pense qu'ils ont passé des moments extraordinaires.
L'équipe de France éliminée au premier tour après deux défaites et une victoire.
En prenant beaucoup de buts.
Oui, il y a eu la défaite, il y a eu 4-1 contre le Mexique, victoire 4-3 contre l'Afrique du Sud, il prend 4-0 contre le Japon. Et pourtant, Gignac avait faim, il a marqué 4 buts dans cette
Europe.
Tiens, Manu, il est 13h52 dans l'intégrale foot sur RMC. Tu le sais, aujourd'hui, il y a cette première journée de Ligue 1, la mi-temps entre Rennes et Lens, un partout. Il y a cette cérémonie de clôture à Tokyo où nous sommes avec l'OMR et puis on est également au Trocadéro avec Anthony Reich puisque c'est là que la fin de la cérémonie va virtuellement se terminer à Paris et Anthony Reich est avec Manu, notre ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer. Anthony.
Oui, tout à fait, Thibaut. Bonjour, monsieur le ministre. Merci de nous prendre un petit peu de temps pour RMC pendant cette cérémonie qui est historique. Évidemment, Paris, la France, le sport français vivent un moment important aujourd'hui. Ça y est, Paris, dans quelques dizaines de minutes, va être officiellement la ville hôte des prochains Jeux Olympiques.
Oui, c'est donc un moment très important, très symbolique, mais aussi très significatif de la grande responsabilité que nous avons maintenant, c'est-à-dire d'être un peu les détenteurs de la flamme olympique, avec toute la préparation très concrète que nous faisons avec Tony Estanguet sur le sujet. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de maintenant faire le retour d'expérience de ce qui s'est passé à Tokyo, aussi bien sur les performances sportives, bien sûr, on le fera avec Claude Onesta, mais aussi sur la préparation pratique des choses. Et donc ce moment-là dit ça, mais il dit aussi le transfert d'un état d'esprit. Comme chacun sait, c'est en France qu'il y a eu la renaissance des Jeux Olympiques, il y a près de 100 ans maintenant, avec le baron Pierre de Coubertin. Et cette renaissance, elle a apporté quelque chose de très important au monde. L'esprit sportif, l'esprit d'équipe, toutes les valeurs du sport. Et on voit en ce moment à quel point on a eu raison de maintenir, les Japonais ont raison de maintenir les Jeux Olympiques de Tokyo, parce que cet esprit olympique, il est unique, et on ne doit pas le perdre. Et donc il nous incombe la responsabilité maintenant de le maintenir et d'en faire quelque chose de fort, et on y travaille.
Vous parliez du bilan de ces Jeux de Tokyo, 33 médailles pour la France, la délégation française. Quel bilan vous en dressez, vous, en tant que ministre des Sports ?
Il y a des choses positives et des choses négatives, c'est évident. Évidemment, dans les choses très positives, il y a ce qu'on vient de vivre au titre des sports collectifs, et il faut le souligner. Et en tant que ministre de l'Éducation nationale, autant que de la jeunesse et des sports, je ne peux que souligner le fait que le handball, le volley, le basket sont des sports qui sont très pratiqués par nos professeurs de PS. Et donc, je suis heureux qu'ils le font depuis des années, que on commence à voir que c'est pas pour rien qu'on a des handballeurs maintenant, que génération après génération réussissent une performance aussi, et des handballeuses aussi magnifiques. Donc ça montre bien que quand on fait le sport à l'école, eh bien on a des résultats y compris pour l'élite sportive, mais aussi évidemment des résultats immédiats pour nos enfants, parce qu'il est important que nos enfants fassent du sport, et c'est mon enjeu principal d'ailleurs, j'y travaille d'abord et avant tout. Mais c'est vrai que il y a aussi des aspects négatifs, il faut le dire, hein, dans les performances sportives. Il y a des domaines où on ramène très peu de médailles, et qui sont des domaines où justement il y a beaucoup de médailles, comme l'athlétisme, la natation ou d'autres, même si certains de nos athlètes ont quand même tiré leur épingle du jeu. Donc c'est évident qu'on va travailler fortement à ça. Ça a déjà commencé, hein, Claude Onesta, vous le savez, est chargé de cette mission. Donc on va être très professionnel pour faire le retour d'expérience, ne pas se payer de mots, être très concret pour concentrer nos efforts sur les domaines où on peut gagner des médailles et accompagner nos sportifs d'une façon efficace, aussi bien sur le plan physique, technique, pratique, que sur le plan de la préparation mentale.
Ce bilan vous inquiète un petit peu, ou justement vous vous dites que le sport français peut travailler? On sait que la génération 2024 est en route depuis quelques temps, mais les objectifs de médailles seront certainement plus importants dans 3 ans.
Oui, non, il ne m'inquiète pas, mais je suis lucide, c'est-à-dire je vois bien les points forts et les points faibles. Je crois que c'est dans la vie, il faut toujours faire comme ça. C'est-à-dire, on a clairement des points forts qui doivent nous inspirer, nous montrer qu'on doit avoir confiance en nous-mêmes. Il n'y a aucune fatalité pour être faible dans certains sports, puisqu'on est très bon dans certains autres. Et puis, il faut évidemment regarder en face nos points faibles et y remédier. Et c'est évidemment ce que, très collectivement, on va faire.
Pour revenir à ce moment, cette fête aujourd'hui ici, 6000 personnes au Trocadéro, on voit que les Français, puis même des étrangers qui sont venus passionnés de sport, sont tous là, ils répondent à l'appel du sport. Ça va être une cérémonie historique, la première fois que deux villes communient cette passation de témoins. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
Oui, c'est une très belle initiative, je trouve que c'est une très belle innovation, parce que vous voyez là, on est en train de vivre en ce moment un moment unique, effectivement, qui est un moment de joie, qui nous donne déjà une première saveur de ce qui va se passer en 2024. On voit que la population a envie de partager tout cela. Le fait de faire communiquer deux villes comme ça à distance, je trouve que c'est une très belle idée. Et donc, on a une belle illustration de ce qu'est l'esprit olympique et ce que veut dire le passage de flamme. C'est pas seulement quelque chose de physique, c'est quelque chose qui relève de l'état d'esprit.
Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, me disait hier que, allez, dans une trentaine de minutes maintenant, la pression va monter d'un cran. Le sprint final vers Paris 2024 va être officiellement lancé. Il faudra se mettre en ordre de marche encore plus que précédemment.
Oui, il a totalement raison. C'est une sorte de dernière ligne droite et on peut filer la métaphore sportive. Heureusement, ça ne commence pas aujourd'hui. Ça fait, il y a tout un travail qui a été accompli, ça va de soi. Mais c'est vrai que maintenant, on est en responsabilité directe et ça crée quelque chose de nouveau. Et tant mieux, parce que c'est aussi une mobilisation générale qui doit avoir lieu. Et donc je pense que ce qui se passe aujourd'hui doit avoir un impact sur la population française. Regardez, à Tokyo, il y a beaucoup de bénévoles. Ils ont été très présents et très sympathiques aussi, enfin dans un très bel esprit. Nous devons nous aussi avoir beaucoup de bénévoles en 2024, former des jeunes, avoir un impact positif sur la population de ce qui se passe. Ce sera tout sauf des jeux fermés. C'est des jeux au service de la population, au service du partage de l'esprit olympique. Et donc oui, on est dans cet état d'esprit maintenant de passer d'une préparation qui a d'abord été technique de Paris 2024 jusqu'à aujourd'hui à quelque chose maintenant qui s'élargit et qui va impliquer évidemment les professionnels du sujet, mais aussi l'ensemble de la population française.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup.
À vous. Merci.
Merci, Anthony Reich, avec le ministre des Sports, Jean-Michel Blanquer, en direct du Trocadéro à Paris, 13h58. L'intégrale foot sur RMC. On suit évidemment ces JO, la cérémonie de clôture et la passation du flambeau. Vous la vivrez sur RMC depuis Tokyo jusqu'à Paris. Et puis la deuxième période de cette première journée de Ligue 1 entre Rennes et Lens, un partout à la pause. L'intégrale foot revient dans un instant.
RMC, intégrale foot, Liga Uber Eats.